Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu, on parlera, comme tous les jeudis, d'économie et notamment de l'impact attendu des reconfinements sur l'activité en Australie. Jean-Noël Ducasse nous fera aussi un point complet sur l'actualité sportive. On va également revenir sur ce rapport paru hier de l'ONG Human Rights Watch qui évoque en détail les pressions très fortes exercées par la Chine sur les universités australiennes. Et enfin, pour terminer, on va discuter avec le curateur de la nouvelle exposition sur les peintres impressionnistes qui vient de prendre ses quartiers à la National Gallery of Victoria. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 1er juillet 2021. 24 nouveaux cas de Covid recensés en Nouvelle-Galles du Sud. Aux États-Unis, l'ancien secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est mort à l'âge de 88 ans. Et à Paris, l'ouverture hier du Forum international Génération Égalité consacré aux droits des femmes. Covid ont donc été détectés aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud, parmi lesquels 17 sont liés à des cas précédemment identifiés. Gladys Bérégé-Client qui relève que 5 jours après le début du confinement, 12 de ces personnes n'étaient pas à l'isolement. Elle insiste sur l'importance pour les personnes qui présentent des symptômes de rester chez eux et de ne pas aller au travail, même si celui-ci est essentiel.
We can't afford to have people continue to have the virus going about their business. Because we're all in lockdown, hospitality venues and the like are not posing a risk. But people going about their business, shopping and interacting with others, is causing the virus to continue to circulate.
Et dans le Queensland, 2 nouveaux cas de coronavirus. Anastasia Palaszczuk, qui dirige l'État, se félicite du nombre de personnes qui sont allées ces dernières 24 heures faire un test PCR ou mieux encore, se faire vacciner.
The fact that we've had a large number of testing, plus we are not seeing more wide-scale community cases, is very, very encouraging. But we're not out of the woods yet. We've still got another 24 hours to go to see what happens over the next 24 hours, and we'll update you tomorrow in relation to whether or not we can lift that lockdown.
D'un fiasco, la campagne de vaccination en Australie est en train de tourner à la polémique. Une polémique qui oppose d'un côté le Premier ministre Scott Morrison qui lundi soir a annoncé que désormais tous les adultes, quel que soit leur âge, pouvaient recevoir le vaccin AstraZeneca. Et ce, pourtant, après en avoir restreint l'usage aux personnes âgées de plus de 60 ans. Une consigne levée donc et qui va à l'encontre de l'avis donné par l'Association médicale australienne ou encore de Janet Young, la médecin en chef de l'État du Queensland, qui estime que pour les moins de 40 ans en particulier, le risque de développer un caillot sanguin avec ce vaccin est bien réel. Sur Sky News, le médecin généraliste Théo Aronet pense pour sa part qu'il ne faut pas décourager les jeunes de recevoir ce vaccin, l'essentiel étant selon lui qu'ils prennent leurs décisions en ayant les bonnes informations, informations que leur fourniront leurs médecins traitants. On l'écoute.
You're looking at approximately 1 in 50,000 people potentially can get blood clot from the vaccine and most of them recover from this blood clot. I don't believe people should be forbidden from having the luxury of being having the choice. Of receiving this vaccine. People do not feel safe. And if they, after speaking to a doctor, wish to have it, then they should be entitled to.
Il n'y a désormais plus aucune troupe australienne déployée en Afghanistan, un pays où l'armée australienne s'était engagée il y a maintenant 20 ans auprès des États-Unis lors de son intervention suite aux attentats du 11 septembre. L'information selon laquelle les troupes se sont donc totalement retirées a été donnée hier soir par ABC. En revanche, cette information n'a pas encore été officiellement annoncée par le ministère de la Défense. Donald Rumsfeld, est mort hier à l'âge de 88 ans. L'ancien secrétaire à la défense du président américain George W. Bush a surveillé au début des années 2000 l'intervention américaine en Afghanistan, puis l'invasion de l'Irak après les attentats du 11 septembre 2001. Aux États-Unis, les réactions se multiplient. On fait le point avec Anne Corpet pour RFI.
C'était un homme très bon. Grâce à lui, les États-Unis sont un pays plus sûr aujourd'hui, a commenté l'ancien président George Bush à l'annonce du décès de Donald Rumsfeld. Le bilan de l'ancien secrétaire à la défense américain est en réalité controversé. Indéfectible faucon, il a été l'un des artisans de la guerre en Afghanistan et en Irak. Sa réputation a été sérieusement ternie par les clichés des prisonniers irakiens torturés par les Américains dans la prison d'Abu Ghraib. Donald Rumsfeld a été deux fois secrétaire à la Défense. Il a été le plus jeune à occuper ce poste en pleine guerre froide sous la présidence Ford et le plus vieux lorsqu'il a servi sous George Bush. L'ex-secrétaire à la Défense n'a jamais regretté l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Dans ses mémoires publiées en 2011, il estimait qu'avoir débarrassé la région du régime brutal de Saddam Hussein avait créé un monde plus stable et plus sûr. Une analyse contestée par la plupart des experts. Anne Corpet, Washington, RFI.
En bref, la Chine fête aujourd'hui le centenaire du Parti communiste chinois. Une grande célébration a lieu en ce moment même sur la place Tiananmen à Pékin sous l'égide de son président Xi Jinping qui s'est exprimé un peu plus tôt. Il a tenu d'ailleurs un discours très martial appelant notamment Taïwan à éviter d'exprimer trop fortement toute velléité d'indépendance, des velléités qui seraient sévèrement réprimées par le régime chinois. Direction maintenant le Canada. Le nord-ouest du pays est frappé depuis quelques jours par une vague de chaleur inédite et aussi mortelle. Au moins 134 personnes auraient perdu la vie ces derniers jours en Colombie-Britannique, tandis qu'un record absolu de chaleur a été battu par trois fois pour s'approcher des 50 degrés Celsius. Une situation très inhabituelle mais qui pourrait encore durer. Béatrice Leveillé pour RFI.
Près de deux fois plus de décès qu'en temps normal. La vague de chaleur est responsable de cette surmortalité, selon les autorités canadiennes. Cette dangereuse canicule touche plusieurs régions de la Colombie-Britannique et elle va se poursuivre encore pendant au moins trois jours. Dans les régions les plus enclavées où il n'y a aucun souffle de vent, les habitants décrivent une situation étouffante. C'est comme ouvrir la porte du four pour voir ce qui est en train de cuire. Les gens restent calfeutrés dans leurs habitations. Beaucoup de lieux sont fermés, tout ce qui est cuisine, restaurant où la température est insoutenable. Seul conseil des autorités, boire de l'eau, rester à l'ombre, tenter de dormir la nuit, malgré la persistance de la chaleur, car les nuits chaudes rendent la canicule particulièrement difficile. La pandémie n'arrange rien. Difficile pour les soignants de garder leur masque toute la journée. Des soignants débordés par les arrivées aux urgences de personnes victimes de malaise à cause de la température.
On retourne aux États-Unis où l'acteur Bill Cosby a été libéré de prison. Après l'annulation du procès qu'il avait condamné pour agression sexuelle, en fait, quand la justice avait commencé à s'intéresser à lui, Bill Cosby avait reçu l'engagement du procureur chargé de l'enquête qu'il ne serait pas poursuivi pénalement et seulement civilement s'il renonçait à son droit au silence. Mais finalement, ce même procureur avait décidé ensuite d'utiliser les déclarations de l'acteur pour le faire incarcérer, un procédé considéré comme déloyal par la Cour suprême de Pennsylvanie qui a donc annulé sa condamnation et ordonné sa libération. Une décision dont se félicite l'avocate de Bill Cosby, Jennifer Bonjean.
I want to say this about the Pennsylvania Supreme Court. They demonstrated that they were impervious to the court of public opinion, which frankly, the lower courts were not. We knew all along he never should have been prosecuted for this. He had every right to rely on the prosecutor's word. And they pulled the rug out from underneath him because of politics, because of the court of public opinion, and that is not how our system should operate.
Petit détour maintenant par Paris où s'est ouvert hier le Forum Génération Égalité. C'est le premier grand rendez-vous international consacré à la question du droit des femmes qui s'organise depuis 1995. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Carrousel du Louvre en présence d'Emmanuel Macron. Le président français a tenu à rappeler l'urgence du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez-le.
Ce forum doit être un forum de mobilisation et d'action. Parce que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça n'est rien moins que la moitié de l'humanité. Et donc on doit agir face à tous les défis qui sont les nôtres, parce qu'il y a urgence. Alors il y a d'abord urgence à cause du contexte, et ça nous ne l'avions pas prévu avant, celui de la pandémie. Et donc on a souvent dit du Covid que c'était un virus antisocial, parce qu'il touchait les plus pauvres. Il est en plus antiféministe. La deuxième justification de cette urgence, c'est le vent mauvais qui se remet à souffler dans beaucoup de nos sociétés. En effet, il y a des forces réactionnaires, patriarcales, qui tentent de reprendre le pouvoir dans une forme de ce qu'on pourrait appeler une internationale du conservatisme. Et ils veulent remettre en cause absolument des décennies d'acquis. Mais il y a de l'espoir parce que nous sommes fortes et forts. Je revendique, avec les dirigeants qui sont là, d'être féministes.
On jette maintenant, pour terminer, un petit coup d'œil à la météo de ce jeudi en Australie. Il pleut quasiment partout. 19 degrés à Perth, 15 degrés à Adelaide, 17 degrés et du soleil à Melbourne. C'est l'une des seules villes d'Australie où il fait beau aujourd'hui. En plus, à Melbourne, c'est quand même pas si courant que ça. 18 degrés à Sydney, 20 degrés à Brisbane et enfin 33 degrés aujourd'hui à Darwin. Vient d'écouter la chanteuse préférée d'Éric Zemmour, elle s'appelle Corinne et ce morceau qui nous fait à tous du bien sous cette grisaille ambiance, elle s'appelle Il fait chaud. 13h16 sur SBS, le programme en français. On retrouve maintenant Jean-Noël Ducasse pour un point complet sur l'actualité sportive.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France hier et après les routes de Bretagne, la cinquième étape hier, c'était un contre-la-montre dans les rues de Laval et Tadej Pogacar, le Slovène, l'emporte et Matt Van Der Poel, le Néerlandais, garde le maillot jaune. Éric Chorin, Radio France Internationale.
Le jaune lui va si bien, Mathieu Van Der Poel s'est donc battu jusqu'au bout du chrono pour sauver un maillot que Tadej Pogacar avait à moitié enfilé. Après 8 km, le Slovène avait déjà repris 7 secondes au Néerlandais, 22 secondes après 17 km, l'affaire semblait pliée. Mais Van Der Poel s'est arraché dans le final pour terminer 5e à 31 secondes du vainqueur sortant du tour. Van Der Poel sauve son maillot pour 8 petites secondes et il a de bonnes chances de le conserver jusqu'à samedi et l'arrivée du peloton dans les Alpes. Mais 3 jours avant la montagne, le grand gagnant du contre-la-montre de Laval, c'est bien Tadej Pogacar. Pogacar, non seulement il a gagné l'étape devant le Suisse Stefan Küng, le champion d'Europe de la spécialité, très dépité, mais il a surtout marqué les esprits et son territoire. Plus question pour lui de surprendre son monde, à commencer par son compatriote Primoz Roglic la veille de l'arrivée dans le chrono de la planche des belles filles, comme l'an passé, en reléguant ses plus sérieux rivaux annoncés, Richard Carapaz, Primoz Roglic et Geraint Thomas à plus d'une minute trente. Pogacar annonce la couleur d'entrée. Cette année, le patron, c'est lui.
Stefan Küng, le Suisse et spécialiste du contre-la-montre, est déçu de sa performance en arrivant à la deuxième place. On l'écoute.
Ah, deuxième. Tout le monde a oublié ça demain soir, ou même ce soir peut-être. J'ai déjà fait deuxième dans ma toute première étape au Tour de France 2017 à Düsseldorf. Donc voilà, j'aurais bien aimé de gagner. et c'était le plus fort aujourd'hui, donc chapeau à lui. Puis voilà, il y a un deuxième chrono en fin de tour, et puis j'espère bien qu'il va se fatiguer un peu pendant ce tour, parce que moi j'aurai plus de temps à récupérer en prenant quelques étapes un peu plus tranquillement. Donc au deuxième chrono, je prends ma revanche.
On passe au tennis Wimbledon hier, et ça passe pour Nick Kyrgios, l'Australien, en 5 manches contre Hugo Humbert, le Français. On écoute la réaction de Nick Kyrgios après le match.
Yeah, I mean, I just want to say thanks for coming out last night, hanging around. I know there was a court change, but the atmosphere last night was one of my favorite memories, honestly. You know, obviously, we're all struggling with COVID, and you know, as a world, I think we're going to slowly overcome it, but it's awesome to see you guys back out here, so it's exciting.
Et un mot sur la performance des Français avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Clara Burel, Alizé Cornet, Gaël Monfils, Benjamin Bonzi et Jérémy Chardy, tombeur du russe Karatsev, passent au deuxième tour. C'est fini déjà en revanche pour Joe Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Corentin Moutet et Grégoire Barrère. Du côté des favoris, Novak Djokovic, c'est lui qualifié pour le troisième tour. Il a un peu d'avance, victoire en 3-7 du numéro 1 mondial aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson.
Au deuxième tour, on se jabeure. La Tunisienne a battu l'Américaine Venus Williams en 2 manches, 7-5, 6-0. Venus Williams apprécie bien on se jabeure et sa façon de jouer. On l'écoute.
Oui, Ons Jabeur, c'est une des personnes que je préfère sur le circuit. Honnêtement, c'est énorme ce qu'elle fait. Elle abat des barrières. C'est la première femme de son pays à faire ce qu'elle fait. Elle vient de remporter son tout premier tournoi. Elle a l'air de se sentir super bien. Je pense que le public va découvrir une nouvelle génération de femmes qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, mais qui se mettent au tennis. Et je pense que c'est un modèle pour énormément de gens, y compris pour moi.
Inspiring so many people, including me. Venus Williams continuera en double mix à Wimbledon avec, devinez qui ? Oui, Nick Kyrgios. L'Australien Ash Barty, ravi d'avoir joué contre l'Espagnol Carla Suarez Navarro, qui faisait son tour d'adieu après avoir lutté contre le cancer, une bataille qu'elle a gagnée contre un lymphome de Hodgkin. Écoutez l'hommage de Ash Barty.
It was really special to be able to experience what she can bring from the other side of the court. So I think all credit goes to her for her resilience and her nature as a competitor to be able to come back from the adversity that she has and to be able to have that moment with her was nothing shy of remarkable.
Et puis le départ douloureux de Serena Williams, l'Américaine blessée à la cuisse droite lors d'une chute lors du match au premier tour contre Aliak Sandrasasnovic, la Biélorusse. On passe maintenant au foot, l'Euro avec les huitièmes de finale et la débâcle de la France qui continue à marquer l'actualité. Olivier Pron pour RFI a pu recueillir quelques impressions des supporters français à Bucarest avant qu'ils ne prennent l'avion pour rentrer chez eux.
On était trop sûrs de nous, mais ça c'est aussi quand on a une équipe qui a été championne du monde jeune. C'est le retour de bâton maintenant, on va voir. Elle a deux options. Soit elle explose, soit elle réagit et elle se rend compte qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et même quand on mène 3-1 et qu'on se dit que c'est très facile, non, il faut respecter tout le monde et voilà quoi. Toi, c'est un péché d'arrogance cette défaite.
J'ai trouvé l'équipe un peu trop suffisante. C'est dommage parce qu'on avait, je pense qu'on a un des meilleurs effectifs de l'Euro, mais c'est pas passé par suffisance. Un match, on l'a vu, ça dure 90 minutes.
C'était un match de fou, à part que quand même, je trouve qu'ils ont joué qu'une seule mi-temps, la première. Ils ne se sont pas donnés à fond. Ils ont perdu une bataille, mais pas la guerre.
Mardi, l'Angleterre a battu l'Allemagne 2-0 et l'Ukraine a battu la Suède 2-1 après prolongation et rejoint les Anglais en quart de finale. Samedi à Rome, les deux héros anglais sont Raheem Sterling et Harry Kane, comme nous l'explique Martin Guez pour RFI.
Des huitièmes de finale qui font mal, qui font mal. Après les Pays-Bas, après le Portugal tenant du titre et après la France championne du monde, c'est l'Allemagne qui est passée à la trappe. Les champions du monde 2014, dernier survivant du groupe de la mort, étaient passés proches d'une sortie de route dès le premier tour. Et le chemin s'arrête finalement en huitième face à l'Angleterre. Des Anglais qui ont enfin gagné un match à élimination directe dans un Euro, une première depuis 25 ans, en s'imposant 2-0 à Wembley. Grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure de Raheem Sterling, le meilleur buteur anglais du tournoi. Et grâce à Harry Kane, le capitaine, son tout premier but dans cet Euro. Les Free Lions commencent à rugir et n'ont toujours pas encaissé de but. tout simplement parfait pour le prince Harry.
No, amazing day, amazing afternoon for us.
Incroyable, c'est une journée incroyable. On avait beaucoup de pression, on avait beaucoup attendu pour ça. C'est une grosse performance et encore une fois, nous n'avons pas encaissé de but. Mais on ne veut pas s'arrêter là, on doit enchaîner avec un autre résultat. Les garçons ont montré un super caractère, un super état d'esprit. Moi, j'ai enfin marqué, mais si je ne marque pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aider l'équipe comme je l'ai fait aujourd'hui.
Des Anglais qui affronteront l'Ukraine samedi à Rome, les joueurs d'Andrei Shevchenko qui ont battu la Suède au bout des prolongations en inscrivant le but de la victoire à la 121e minute pour s'imposer 2-1. Dans les autres quarts de finale, le Danemark rencontrera la République tchèque, la Belgique défiera l'Italie et la Suisse se mesurera à l'Espagne.
Puis la liste des joueurs français pour les JO, toujours pas connue. La Fédération française a obtenu un délai sur 19 joueurs sélectionnés. 6 n'ont pas été libérés par leur club. Précision de Sophia Namazian pour RFI.
Le casse-tête continue pour Sylvain Ripoll. Le coup de bluff de la Fédération française de football et cette liste surprise communiquée il y a quelques jours n'a rien changé. Certains clubs empêchent toujours leurs joueurs de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Parmi les principaux absents, le prometteur milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga ou l'attaquant lillois Jonathan Ikoné. Au total, ce sont 6 noms que Sylvain Ripoll doit remplacer en urgence pour constituer sa liste finale. La cible des joueurs de clubs français avec qui la Fédération poursuit intensément les négociations. Son argument: ne pas prendre plus d'un joueur par club pour ne pas tronquer la préparation estivale. De nouveaux joueurs pourraient alors faire leur apparition, le milieu lorientais Enzo Lefay et l'ailier rémois Nathanael Mboukou. Sylvain Ripoll va devoir bricoler, mais peut déjà compter sur la présence du vétéran André-Pierre Gignac et du champion du monde Florian Thauvin pour apporter toute leur expérience dans le groupe France. Un groupe difficile à construire, à tel point que la FIFA vient d'accorder un délai supplémentaire de 48 heures pour compléter la liste.
Et puis en mode golf, l'américaine Nelly Korda a remporté il y a quelques jours la PGA Championship au Atlanta Athletic Club. Elle est la fille de l'ancien joueur de tennis Peter Korda et sœur de Sébastien, un joueur de tennis professionnel qui joue actuellement à Wimbledon. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
C'était donc Charlotte Adigéry et ce morceau qui s'appelle Pâté ni pâte, qui, il faut bien le reconnaître, est un peu difficile à mettre dans une seule case ou dans un style musical particulier. Il est maintenant 13h30, c'est l'heure de retrouver Nicolas Perspich et Jean-Noël Ducasse pour le journal de l'économie en Australie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et bien comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous Nicolas.
Bonjour Jean-Noël.
C'est le confinement dans plusieurs états et territoires du pays et l'impact économique est prévu d'être dans les centaines de millions de dollars.
Oui, exactement. Là, on voit vraiment l'effet de la variante Delta du virus qui frappe vraiment un peu partout autour du pays. Il y a des confinements dans plusieurs villes et donc voilà, ça touche les business très très fort, beaucoup qui ont été obligés de carrément fermer, de renvoyer les employés à la maison, ou il y en a d'autres comme des cafés, des bars, des restaurants qui peuvent vendre seulement du take-away. Donc c'est très dur, il y a beaucoup de business qui perd beaucoup d'argent, les rues sont vides partout, un peu partout, à Sydney, à Perth, à Brisbane, il y a presque personne dans les centres-villes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de commerce qui se passe pour ces gens de business-là. Et bon, alors, c'est vrai que le gouvernement fédéral donne de l'aide, du soutien financier à des business dans certaines circonstances pendant les confinements. Et aussi, les États, il y en a qui donnent jusqu'à 2000 dollars pour aider les business, les petits commerçants en particulier, en difficulté. Mais C'est plus compliqué que ça parce que, en fait, dans certains endroits comme Sydney, Nouvelle-Galles du Sud et ailleurs, c'est déjà les vacances scolaires. Ailleurs, ils vont bientôt commencer. Donc, pour les familles, ils se demandent est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, oui ou non. Donc ça a un effet économique important parce que, bien sûr, dans les régions, ils dépendent énormément de ce tourisme. Les gens qui partent en vacances scolaires, en voyage, donc des hôtels, des endroits de camping, des restos, des cafés, tout ça. C'est le mois de juillet, c'est pour beaucoup de business touristique dans les régions autour d'Australie, c'est un des mois les plus importants de l'année, en particulier avec des gens qui essayent d'aller vers le chaud au nord de Queensland, de l'Australie occidentale et ailleurs. Donc pour ces business-là touristiques, c'est une période avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, et il y en a qui ont dit si on perd tout le business pendant les vacances scolaires à cause des confinements, eh ben on n'est pas sûr qu'on va pouvoir continuer parce que déjà on a été frappé par plusieurs confinements et Covid depuis 18 mois derniers. Si on a ça aussi, ils disent que ça va être vraiment très difficile pour eux de rester même ouvert. Donc c'est un moment dur pour beaucoup de gens.
Cette nouvelle d'une grande opportunité pour l'industrie du recyclage.
Oui, voilà. Donc, depuis très longtemps, on envoie tous les produits à être recyclés. On exporte ça, on envoie ça à d'autres pays et ils s'en occupent. Mais bon, la Chine, principalement, mais aussi l'Indonésie, a dit qu'ils allaient maintenant bloquer l'exportation des plastiques mixtes, des plastiques variés. Et ça veut dire que l'Australie ne peut plus envoyer ça à l'étranger comme avant. Donc, le secteur du recyclage dit qu'ils ne sont pas vraiment prêts pour ce changement, qu'ils n'ont pas vraiment la capacité pour recycler cette énorme quantité maintenant ici en Australie. Il dit qu'ils avancent petit à petit, mais vraiment pas assez. Donc, il y a des inquiétudes là, parce que qu'est-ce qu'on va en faire si on ne peut pas le recycler? Est-ce qu'on va simplement enterrer tout ça et l'oublier? Ce qui serait pas vraiment idéal. Donc voilà, déjà on peut pas envoyer les plastiques mixtes variés quand ils seront tous mis ensemble. S'ils sont triés, on va pouvoir faire ça pour encore 12 mois, mais après ça va être interdit par les autres pays aussi, et donc ça va devenir de plus en plus difficile. Alors on sait pas vraiment très bien comment on va gérer ça parce que ça prend beaucoup de temps pour créer des centres de recyclage ou s'il y en a pour augmenter leur capacité. Donc ça ne laisse pas trop d'options de ce qu'il va faire avec des montagnes de plastique et d'autres matériels qu'on jette dans notre poubelle jaune, souvent dans certains États, pour être recyclé, le papier aussi. Donc la dernière option, c'est de l'enterrer, mais c'est vraiment pas idéal parce que ça veut dire que vraiment là, on fait marche arrière, mais c'est le moment où l'Australie a besoin d'assumer parce que bon, les autres pays ont marre de prendre ce qui est dans nos poubelles et ils disent bon, c'est à vous de gérer ça l'Australie. Donc les prochains mois et même l'année à venir vont être vraiment très très importantes.
Voilà, merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
En Australie, la liberté d'expression s'arrête-t-elle aux portes des universités? La réponse est oui, d'après l'ONG Human Rights Watch, qui dans son dernier rapport s'appuie sur des dizaines de témoignages d'enseignants et d'étudiants, notamment des étudiants chinois. Même lorsqu'ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux, ces derniers sont constamment surveillés. C'est l'expérience vécue par celle qui se fait appeler Aurore Zhu, après avoir organisé une manifestation l'an dernier à Melbourne pour dénoncer le traitement infligé aux médecins chinois qui ont tenté d'alerter le public à propos du Covid-19. Une photo d'elle, prise pendant la manifestation, a circulé sur les réseaux sociaux chinois. Puis elle a ensuite reçu un appel très inquiétant.
After this rally, the police began to investigate me and my parents was taken to the police station. They gave me a video call. In on that video call, it's my dad and the policeman said, I need to go back and surrender myself. They said it's illegal to use Twitter, especially for my account to anti the CCP.
Face au risque d'arrestation, elle n'envisage plus de rentrer en Chine. Elle a aussi cessé de parler avec ses parents pour ne pas les mettre en danger. À Brisbane, Drew Pavlou est lui aussi très critique du régime chinois. Mais ses prises de position ne sont pas sans conséquences pour cette étudiante de 22 ans.
I had the death threats against the family. I had my email hacked by an IP address from Hong Kong and then Uyghurs I had been talking with over email had their families threatened.
Il a aussi été agressé en juillet 2019 par des nationalistes chinois alors qu'il participait sur son campus à une manifestation de soutien à Hong Kong. Un incident à la suite duquel son université n'a pas porté plainte. C'est ce qui a convaincu Drew que lorsqu'il s'agit de la Chine, la règle, c'est la loi du silence.
When the Trump administration was doing the Muslim travel ban, the university put out a statement and condemned his ban as racist. But then when it came to China, where like you had these nationalists on campus beating people up and who were there with the sole intention of starting violence. They would never condemn them by name ever.
Le problème de cette université, comme de quasiment toutes les autres en Australie, c'est sa dépendance financière à l'égard des étudiants étrangers, et notamment des étudiants chinois, qui représentent de loin le plus important contingent. Les frais de scolarité perçus en 2019 ont rapporté plus de 10 milliards d'euros, soit 27% du budget des universités. Elles sont dès lors de moins en moins enclines à, comme le dit un enseignant dans le rapport de Human Rights Watch, mordre la main qui nous nourrit.
Une statue à son effigie au beau milieu de Paris, dans ce bon vieux quartier Rivoli. Sa voiture dernier cri, chauffeur et costume d'Al Capone. Ses diplômes ont construit un joli monde qui écrase tout dit. On le laisse faire et même se reproduire. Maintenant on se plaint de son petit avenir. T'avances, tu recules, tu maîtrises, c'est la mouise.
C'est la mouise.
Tu méprises, tu transformes, tu maquilles ton joli.
C'est la crise.
C'est tout, tu vois tout, mais jamais tu t'épuises.
C'est la
mouise. Je mets la gomme, je suis la toux dans ton jeu qui s'aiguise.
Quand c'est la crise.
C'est la crise, c'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter. Il est interprété par Anissa Altmaier. Pour la dernière partie de notre émission, on va maintenant parler de peinture. Jean-Noël Ducasse s'est entretenu avec Ted Gott, le curateur de l'exposition sur les impressionnistes français, qui vient d'ouvrir à la National Gallery of Victoria de Melbourne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, nous sommes avec Ted Gott, qui est le Senior Curator for International Art à la Galerie Nationale du Victoria. Bonjour et bienvenue à nouveau sur SBS French, Ted.
Bonjour Jean-Noël, je suis enchanté d'être ici.
Et on parle des Winter Masterpieces de cette année. C'est une exposition d'une centaine d'œuvres des impressionnistes en partenariat avec le Museum of Fine Arts de Boston. Parlez-nous de cette exposition.
Volontiers. Le Museum of Fine Arts Boston fut fondé en 1870 et il possède aujourd'hui l'une des meilleures collections au monde de peintures impressionnistes français. Et comme vous l'avez dit, l'exposition actuelle à la NGV, National Gallery Victoria, comprend une centaine d'œuvres, dont 79 œuvres qui n'ont jamais voyagé en Australie auparavant. Et ça fait de cette exposition une opportunité très spéciale, surtout en cette période où les voyages dans le monde sont pour la plupart suspendus, bien sûr. Donc, l'exposition est divisée en 10 sections qui suivent une piste tout à fait spéciale. L'exposition a été organisée pour nous par la conservatrice Katie Hansen du MFA Boston. Et elle a divisé son exposition en un nombre distinct de salles ou d'histoires. L'exposition s'ouvre sur un retour sur la génération d'artistes qui ont précédé les impressionnistes, aujourd'hui connus sous le nom d'École de Barbizon, puisqu'ils ont commencé à peindre en plein air dans la forêt de Fontainebleau à partir des années 1820. Et ils séjournaient souvent dans le village voisin qui fut nommé Barbizon. Donc l'école de Barbizon. Et lorsque les impressionnistes eux-mêmes furent de jeunes artistes, ce sont les artistes de Barbizon qui ont le plus inspiré leur propre recherche de nouvelles façons de peindre directement avant la nature. Donc la salle d'ouverture de l'exposition contient de merveilleuses peintures atmosphériques d'artistes comme Narcisse Diaz de la Peña, Théodore Rousseau, qui ont travaillé en plein air sur le motif dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est-à-dire la génération avant les impressionnistes eux-mêmes. La deuxième salle de l'exposition présente pour la première fois en Australie 13 tableaux signés Eugène Boudin, un artiste actuellement peu connu ici en Australie, mais qui fut absolument central dans l'évolution de la carrière du jeune Claude Monet. Boudin et Monet ont tous deux grandi en Normandie ensemble et ont maintenu une amitié de longue date. Ils furent introduits à la fin des années 1850, lorsque Monet était encore un adolescent, et ce qui sont des caricatures de personnalités locales au Havre. Boudin l'a vu faisant ça et a persuadé rapidement le jeune artiste d'essayer de peindre en plein air. Et à l'instar de Boudin, Monet abandonne dès ce moment ses dessins caricaturaux et se consacre à la peinture. Donc, cette deuxième salle d'exposition nous offre en effet un échantillon du travail de l'artiste qui a créé en effet le futur Claude Monet. Après ces deux sections préliminaires, l'exposition s'ouvre sur le pur impressionnisme français. Donc, vous entrerez dans une pièce remplie d'images d'eau, sans doute la chose la plus difficile à peindre pour un artiste et un sujet dans lequel les impressionnistes excellaient. Ici, vous verrez de merveilleuses peintures par Alfred Sisley, Paul Cézanne et Claude Monet. Ensuite, on va entrer dans une salle de spectaculaire nature morte, avec de grands exemples de, par exemple, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Caillebotte, et aussi une œuvre éblouissante de Berthe Morisse, l'une des rares femmes associées au mouvement impressionniste. Après ça, on va trouver une grande salle divisée en deux parties. Une partie est dévouée à l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir, l'autre partie est dévouée à Camille Pissarro. Et avec Pissarro surtout, cette salle étudie son rôle de pédagogue, son rôle en guidant des artistes plus jeunes encore que lui, comme le jeune Paul Cézanne, Paul Gauguin et Vincent van Gogh. Et on va voir ici aussi comment Pissarro lui-même était ouvert aux nouvelles idées, apprenant le néo-impressionnisme auprès d'artistes plus jeunes, tels que Paul Signac au milieu des années 1880. Donc, le néo-impressionnisme était une nouvelle technique de peinture qui abandonnait l'application mouillée sur mouillée de tons ammonieux utilisée par les impressionnistes au profit de la mise côte à côte de blocs de couleurs forts et opposés, les couleurs desquelles vont recombiner dans vos yeux pour créer toute une autre sensation. Après ça, il y a un peu un changement dans l'exposition. Donc, alors qu'une grande partie de l'art impressionniste célèbre la lumière naturelle et les paysages extérieurs, certains artistes, bien sûr, ont prospéré sur l'énergie et le changement rapide de la vie urbaine. Et cette autre section de l'exposition est consacrée à des artistes comme Edgar Degas, qui aimait documenter les nouveaux divertissements qui se développaient dans un Paris transformé par les travaux de rénovation urbaine commandés, comme vous savez, par Napoléon III et dirigés par son architecte, le baron Eugène Haussmann. Et ici, on va voir, par exemple, deux peintures extraordinaires qui montre le nouveau sport des courses de chevaux importées d'Angleterre et dont devait se passionner. On voit ici aussi le remarquable nu masculin de Gustave Caillebotte, peint en 1884, l'homme au bain, et aussi un absolument délicieux portrait par Mary Cassatt de sa petite nièce. La dernière salle de l'exposition, que nos scénographes ont éménagée en cercle en hommage délibéré au musée de lingerie à Paris, est consacrée à l'œuvre de Claude Monet. Et cette dernière salle présente pas moins de 16 tableaux. En effet, cette dernière galerie est une exposition en soi. Et à elle seule, à mon avis, vaut le prix d'entrée. Être entouré par 16 peintures de Monet dans une salle en cercle, c'est absolument
époustouflant.
Oui. C'est une chose à voir.
Absolument. Donc, quelque chose comme un quart des tableaux exposés sont des toiles de Claude Monet.
Absolument, absolument. Et la plupart des Monet n'ont jamais visité l'Australie en avant.
Donc, une première pour nous également. Donc, il ne faut pas rater. Et l'exposition va durer jusqu'au 3 octobre.
Absolument. Nous sommes ouverts 7 jours.
7 jours sur 7.
Aussi, 7 jours sur 7. Et nous avons aussi nos soirées de vendredi. Les soirées de fête.
De conférences aussi.
Oui. Et il y a des conférences, oui. Parfois live, parfois par Zoom. Donc, on peut voir sur notre site d'Internet pour préciser si c'est un event dans la chair même ou sur l'Internet. Absolument. À cause de ce pandémie, bien sûr.
Il y a autre chose que j'aimerais aborder avec vous, comme vous êtes là, Ted, c'est qu'au Ian Potter Center, il y a cette exposition qui s'appelle « She, Oak and Sunlight ». Ce sont sur les impressionnistes australiens. Oui. Donc, absolument, on peut voir les œuvres de Tom Roberts, de Frederick McCubbin, Arthur Streeton et bien d'autres artistes qu'il ne faut pas rater, j'imagine.
Absolument. Et c'est une opportunité merveilleuse de voir l'impressionnisme français à NGV International et l'impressionnisme australien à NGV Australian. Donc, on peut visiter les deux expositions et voir l'impressionnisme sur deux parties complètement différentes du monde.
Toujours un plaisir de vous avoir sur SBS French, Ted, et meilleurs voeux pour cette nouvelle exposition. Et merci à vous.
Merci bien. Allez, au revoir.
Au revoir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french. Le média, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. Le média, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande des trucs, mon secret. En un mot, comment je fais pour être ce que je suis? Je réponds généralement.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Bertrand Burgala et cette version de sa chanson L'homme idéal, remixée par le DJ Yuxek. Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi, à 13h précise sur Radio SBS One. D'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour cela, vous pouvez télécharger notre appli SBS Radio ou bien vous abonner à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez tous une excellente après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.